Alors, je vous propose pour commencer que, comme d'habitude, nous prions, si vous voulez bien. Au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et que nous les avons amenés en tentation.
Notre-Dame, trône de la sagesse, priez pour nous. Saint-Cloud,
priez pour nous.
Alors, comme au début de presque chaque séance, je commence par plaider coupable, puisque, contrairement à ce qui a été annoncé la dernière fois, je ne traiterai pas ce soir du sacrement des malades. Et même, je devais évoquer ce soir et le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, mais en préparant cette séance, je me suis rendu compte que c'était totalement déraisonnable. Soit je survole les deux, mais de manière catastrophique, soit je ne traite qu'un des deux ce soir. Alors, pour résoudre ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux vidéos en ligne. Je crois que ce sera plus agréable à suivre si vous n'avez pas eu la séance, au sujet du sacrement des malades et au sujet du sacrement de mariage. Je ne vais donc ce soir traiter que du sacrement de l'ordre. Voilà, je suis désolé de vous imposer ce bricolage. Voilà, donc vous penserez ce que vous voudrez, mais malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Alors, on sait que l'ordre et le mariage, comme les cinq autres sacrements, on l'a vu abondamment, mais je pense qu'il n'y avait même pas besoin de ces séances catéchèses de cette année pour le savoir. Les sept sacrements, en somme, contribuent à la sainteté personnelle de ceux qui les reçoivent. J'y ai insisté à de nombreuses reprises, les sacrements sont les sept canaux ordinaires de communication de la grâce sanctifiante, celle qui nous rend participants de la nature divine, celle qui fait de nous des saints, en venant d'abord laver en nous ce qui est impur, le péché, et ses conséquences, et aussi et surtout celle qui vient nous diviniser. Donc les cinq sacrements, sans surprise, les sept sacrements, servent d'abord à sanctifier celui qui le reçoit. Mais pour les deux sacrements que j'aurais dû envisager ce soir, l'introduction concerne les deux. Comme ça, ça vous fera déjà un petit avant-goût de ce que je dirais sur le sacrement de mariage. Les deux sacrements de l'ordre et du mariage confèrent par surcroît, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, une mission particulière au sein de l'Église, et ces deux sacrements servent à l'édification du peuple de Dieu. Fin de citation. Ils confèrent donc une mission particulière. Outre le fait qu'ils nous sanctifient, comme les autres sacrements, ceux-ci nous rendent aptes à remplir une mission particulière, une mission, à finalité sociale. Évidemment, cette société, il s'agit de l'Église, c'est une société particulière, mais voilà, ce n'est pas seulement un sacrement à portée individuelle. Ceux qui reçoivent d'abord le sacrement de l'ordre sont rendus aptes à exercer la charge de pasteur de l'Église. Cette charge, vous le savez, recouvre une triple mission d'enseignement, de gouvernement et de sanctification du peuple de Dieu. Par l'ordination, les ministres sont unis d'une manière toute spéciale, soit au Christ souverain prêtre, lorsqu'ils sont ordonnés prêtres ou évêques, soit unis d'une manière toute spéciale au Christ serviteur, lorsqu'il s'agit du sacrement de l'ordre dans son expression diaconale. Alors, et ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'il ne s'agit pas qu'ils sont unis au Christ prêtre ou au Christ serviteur, il ne s'agit pas d'une lointaine ressemblance, comme le laissent croire certaines positions des églises de la réforme protestante. Non, nous autres catholiques, et nous avons cela de commun avec nos frères orthodoxes, nous voyons que le sacrement imprime une véritable configuration ontologique, c'est-à-dire au plan de l'être, au plan de la personne, dans ce qu'elle a de plus intime, dans son âme, premièrement, mais aussi jusque dans son corps, qui va faire des ministres, à l'instar de Jésus-Christ, des médiateurs entre Dieu et l'humanité. Si vous préférez, des ponts entre la terre et le ciel. Ce qui a donné le terme « pontifex » en latin, qu'on traduit en français par « pontife ». Tout ministre ordonné, qu'il soit diacre, prêtre ou évêque, est un pontife. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il pontifie. Vous voyez la nuance ? Ça veut dire qu'il faut qu'il s'efforce d'avoir un pied en haut et un pied en bas, ce qui n'est pas toujours très commode. Voilà. Et évidemment, il ne l'est, le ministre ordonné, il n'est pontife, c'est ce que, en totale dépendance du Seigneur Jésus. Ce n'est pas du tout en vertu de ses mérites ou à force d'exercice, ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça n'est pas du tout à la portée de l'être humain que de communiquer rien moins que la vie divine à travers les sacrements. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des ministres. Les ministres, ce sont des êtres qui sont totalement délégués, qui par soi n'ont pas de légitimité. Ils sont envoyés. Et quant à ceux qui se sont engagés dans les liens du mariage, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, sinon tous, peut-être, non, pas tous, eh bien, ils ont pour charge propre, vous avez pour charge propre, dans votre immense majorité, de constituer et d'administrer l'Église domestique. Que constitue votre foyer. Vous connaissez sans doute ce terme qui sonne bien, je trouve assez poétique, de ecclesiola. L'ecclesiola, c'est la petite église en latin, la cellule de base de la mère église, de l'église universelle. L'église universelle ne serait rien si elle n'avait en son fondement des ecclésiolés, des petites églises domestiques que vous constituez comme conjoint et avec vos enfants. Par le mariage, vous êtes constitué icône véritable de l'alliance du Christ et de l'Église. Ça, vous le savez bien, parce qu'on vous en parle sans cesse, vous l'avez amplement médité avant de vous engager dans ce sacrement. Voilà, icône vivante de l'alliance du Christ et de l'Église. Tandis que les ministres ordonnés, eux, sont l'icône vivante du Christ prêtre ou du Christ serviteur, selon qu'ils sont évêques prêtres d'un côté ou diacres de l'autre. Et alors ces missions respectives des ministres ordonnés et des époux ne sont au fond qu'un déploiement de ce qui a été inauguré au jour de notre baptême et qui a été ensuite approfondi par notre confirmation. En principe, pour recevoir le sacrement de mariage, il faut être confirmé. Et alors il y a des exceptions de plus en plus nombreuses. Voilà. Enfin, il faut saisir l'occasion d'être du mariage pour demander la confirmation. Et pour être ordonné diacre, évêque, prêtre ou évêque, là, pour le coup, il faut à coup sûr avoir été confirmé. Voilà, donc c'est vous voyez, un approfondissement de cette même source qu'est la triple dignité du Christ, en fait, de prêtre, de prophète et de roi. C'est bien. Le catéchumène se prépare à recevoir cette triple charge. Voilà. Et ensuite, si faisant un pas de plus dans le sacrement du mariage ou dans le sacrement de l'ordre, il décide d'ouvrir ses chakras, si je puis dire, eh bien, il va vivre dans une plénitude plus grande de cette triple dignité. Ça va ? Rien de nouveau, je pense. Voilà. Alors, venons-en au sacrement de l'ordre. Avant toute chose, un mot au sujet du terme même. De la notion d'ordre. Je ne fais que citer le catéchisme de l'Église catholique au début de son propos relatif au sacrement du même nom. Le mot ordo dans l'Antiquité romaine désignait des corps constitués au sens civil, surtout le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne par conséquent tout simplement l'intégration à cet ordre-là. Et dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition appelle depuis fort longtemps les ordines, c'est le pluriel de ordo. Dans l'Église, il y a plusieurs ordines. La liturgie parle de l'ordo episcoporum, l'ordre des évêques, ordo presbyterorum, l'ordre des prêtres, et ordo diaconorum, l'ordre des diacres. Donc, très bien. Et le catéchisme fait allusion à des ordines, donc à plusieurs ordos qui ont disparu, l'ordre des catéchumènes, l'ordre des vierges, l'ordre des époux, l'ordre des veuves, l'ordre des pénitents, etc. Ça ne veut pas dire que la réalité n'existe plus. Évidemment, il y a toujours aujourd'hui des vierges, des époux, des veuves, des catéchumènes, etc. Mais ça veut dire qu'ils ne sont plus constitués en tant qu'ordre. Dans l'Antiquité chrétienne, on prenait ça très au sérieux. Il y avait des catégories, voilà, qui d'ailleurs, c'est l'existence de ces catégories diverses n'a pas été sans mal, et on a eu affaire à des batailles d'un ordre ou l'autre, ça se fritait allègrement. Voilà, il suffit d'ouvrir les épîtres de saint Paul notamment pour voir l'apôtre mettre de l'ordre, c'est le cas de le dire, ou rappeler à l'ordre, voilà, c'est dans le ton, ces différents ordines qui parfois se jalousaient ou parfois avaient du mal à coexister. Voilà. Saint Paul leur montre que, en faisant référence à cette analogie du corps, qu'on ne saurait jalouser dans l'Église telle personne qui appartient à tel ordre, parce que, de même que dans le corps humain, tous les organes sont importants, de même dans l'Église, il n'y a pas d'organe qui n'ait pas son importance. Voilà. Et il nous, à la suite de cela, expliquant donc que nous sommes un même corps mystique, que nous avons une même dignité par le fait du baptême, que Jésus est la tête commune à tous les membres que nous sommes, quel que soit notre ordre, tout cela n'est fait que pour le service, et qu'en réalité, ce que nous devons tous viser, quel que soit l'ordre auquel nous appartenons, c'est la foi, l'espérance et surtout la charité. Et il a abouti à cette fameuse hymne à la charité que tous vous connaissez, qui est si belle. Voilà, la charité qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne jalouse pas, qui supporte tout, croit tout, espère tout, et qui au fond seule demeure. La charité seule demeure. Voilà. Dans la patrie, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que ça avec l'horreur, mais ça veut dire que nous n'aurons plus besoin d'espérer, puisque nous serons en possession des biens espérés, en l'occurrence de la vision béatifique, de la gloire du ciel. Nous n'aurons pas plus à avoir la foi, puisque avoir la foi, c'est croire sans voir, et là, nous serons dans la vision. En revanche, donc ça, c'est des moteurs auxiliaires, si vous voulez, qui seront désormais caduques, enfin inutiles. En revanche, seul demeurera la charité, c'est-à-dire l'amour même dont les trois personnes divines s'aiment de toute éternité et qu'ils nous font la grâce de nous donner à la mesure où nous le désirons. Voilà. Alors, et puis en fait, au fil des siècles, on n'a plus réservé ce terme d'ordre que soit à la hiérarchie des évêques, des prêtres et des diacres, soit aux congrégations religieuses, voilà, qui étaient constituées de manière hiérarchique, elles aussi, etc. Voilà. On dit entrer dans les ordres. Aujourd'hui, indifféremment pour une religieuse ou un religieux, c'est un peu un abus de langage, ou plutôt il faut entendre ordre au sens large que je viens d'évoquer. Voilà. Mais on n'en peut plus pour, je l'ai dit, les catéchumènes, les époux, les veuves, etc. Et l'ordination, le terme d'ordination, pour le coup, n'est plus réservé qu'au seul diacre, prêtre ou évêque. Alors, on n'utilise même pas ce terme pour les religieux et les religieuses. Je permets tout ça parce que en fait, peut-être ces précisions vous sembleront-elles superfétatoires, quoi, superflues, parce que, oui, bon, bah, d'accord, merci de cette précision. En fait, lorsque aujourd'hui, on regarde dans le rétroviseur, ou plutôt lorsqu'on va se pencher dans des écrits des différentes périodes de l'histoire de l'Église, il peut y avoir des ambiguïtés. Je parlerai tout à l'heure du presbytérat et de l'épiscopat réservés aux seuls hommes. Et si, vous voyez, on tombait sur un texte de l'Antiquité qui nous parle par exemple de l'ordre des vierges, on pourrait se dire, tiens, mais on utilise le même terme, alors est-ce que ça veut dire qu'elles avaient elles aussi accès, j'y reviens, à ce point éminemment polémique, tout à l'heure. Voilà. Et on va commencer par des choses plus, comment dire, plus unanimes. Alors, je vais commencer par vous parler de l'institution du sacrement de l'ordre. On sait bien, parce que vous et moi avons feuilleté abondamment l'Ancien Testament, que l'ordre pas né de rien, que le Christ n'a pas claqué dans ses doigts et fait descendre des choses absolument neuves. Oui, en réalité, il fait du neuf, mais avec de l'ancien. Et dans l'Ancien Testament, on se doute bien, on sait qu'il y a des prêtres, on sait, voilà, mais je voulais juste préciser les choses parce que ça, c'est pas forcément su, ce que je vais vous dire maintenant. Dès l'époque des patriarches, plus précisément, dès l'époque du troisième des patriarches, Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, donc c'est Jacob, Jacob Israël, et ses 12 fils, vous savez que l'un d'entre eux s'appelle Lévi, et donc, c'est à partir de ce moment-là que Dieu demande explicitement que Lévi, le fils de Jacob Israël qui s'appelle Lévi, et toute sa descendance masculine, soit consacrée au service du culte. Et vous savez sans doute que pour qu'ils puissent mieux vaquer à cette seule charge, eh bien, ils sont déchargés des préoccupations temporelles, en quelque sorte. On ne leur confie pas, à cette tribu de Lévi, aux Lévites, on ne leur confie pas, à la différence de tous les autres fils de Jacob Israël, un morceau de la terre sainte. Voilà. Ils sont sans domicile fixe. Voilà. Et nous sommes un peu, nous autres prêtres actuels, un peu de la même famille, puisque nous allons errer de paroisse en paroisse au gré des nominations. Alors, plus tard, à l'époque de Moïse, parmi les hommes, parmi les descendants de Lévi, Dieu choisit Aaron et ses fils, et il ordonne à Moïse de les consacrer afin qu'ils puissent servir à quoi donc ? Eh bien, au culte qui est rendu dans le sanctuaire où est gardé, sanctuaire itinérant, où est gardé l'Arche d'Alliance. C'est une partie seulement des Lévites qui va servir vraiment au culte, à présider au culte que l'on rend à l'Arche d'Alliance, enfin à Dieu via l'Arche d'Alliance. Et ces hommes-là, on va les appeler les Cohen. Les Cohen, ce sont les prêtres qui président au culte de l'Arche d'Alliance. Et puis, au fil des siècles, ils ne vont pas se contenter seulement du culte rendu à l'Arche d'Alliance, mais quand il y aura un temple en bonne et due forme, sous David d'abord, un temple de bois, sous Salomon son fils, un temple de pierre, eh bien, leurs attributions liturgiques vont se multiplier. C'est eux qui... Alors, le culte essentiel que l'on rend, c'est le culte de le culte sanglant, de l'immolation des bêtes, conformément à ce que Dieu exigeait. Ça va être aussi le culte de, plutôt l'offrande de l'encens. C'est toutes choses qui vont perdurer jusqu'à l'époque du Seigneur. Et en réalité, jusque en 70 après Jésus-Christ, au moment de la chute du temple. Mais alors les autres descendants de Lévi, qui ne sont pas fils d'Aaron, qui ne sont pas des Cohen, qu'adviendra-t-il d'eux ? Eh bien, ils vont simplement servir d'auxiliaire, ils vont aider les fils d'Aaron, les Cohen, à la célébration du culte et au sacrifice. Et les pères de l'Église ont vu dans cette distinction fondamentale entre les Cohen, donc les descendants d'Aaron, et tout le reste des Lévites, des descendants de Lévi, mais qui ne sont pas descendants d'Aaron, eh bien la préfiguration des degrés du sacrement de l'ordre qui apparaîtrait dans la Nouvelle Alliance. Les Cohen figurent les prêtres, tandis que le reste des Lévites figurent les diacres. C'est ainsi qu'on désigne d'ailleurs les diacres dans à l'occasion de leur ordination. Des Lévites. Ça en a étonné quelques-uns, des diacres que je connais, ils m'ont dit, on n'est pas prêtres. Non, on ne t'entend pas, mais ce sont des auxiliaires des Cohen. Alors, ensuite arrive le Christ, très bien, lui il a explicitement distingué au sein de l'Église de son temps, l'Église qu'il fondait, des catégories d'hommes à qui il a confié des tâches particulières, respectives, on le sait bien, il y a les 12, et puis il y a les 70 ou 72 disciples. À l'époque apostolique, comme en témoignent les actes des apôtres, on voit par surcroît qu'apparaissent des diacres, les 7 premiers diacres aux actes des apôtres, actes 6, c'est ça. On n'y voyait aucun maléfice, hein, 6, au contraire, c'est tout à fait glorieux. Les diacres, peut-être ne savez-vous pas les circonstances dans lesquelles on les choisit. Alors, vous vous direz si, parce que Saint-Pierre dit que eux, apôtres, ne peuvent pas vaquer à la fois à la prédication de la parole, à la célébration des sacrements, et au service des tables. Mais il faut savoir dans quelles circonstances Saint-Pierre dit cela. Il dit cela parce que sont venus frapper à sa porte, en fait c'est peu de le dire, sont venus gueuler auprès de lui des chrétiens qui ne venaient pas du judaïsme, qui n'a pas été préalablement juif, mais qui venaient du paganisme grec. Et ils étaient furieux de voir qu'on ne prenait pas dans l'Église d'alors le même soin de leur veuve que le soin qu'on apportait aux veuves des chrétiens issus du judaïsme. Vous voyez, il y avait une ségrégation de mauvais alois qui persistait dans l'Église. Et ça, ça ne plaisait pas du tout. Et pour apaiser tout ce monde-là, et parce que Dieu le voulait, eh bien, il a décidé, avec ses confrères apôtres, d'ordonner, puisque l'imposition des mains, ça veut dire ordination, après avoir supplié le Saint-Esprit, etc., comme on le fait avant chaque ordination, bien sûr, eh bien, il a décidé de les destiner. Ces sept gaillards, qui tous sont grecs, hein, Procor, Nicanor, Étienne, etc., ce ne sont que les prénoms grecs. Donc c'est des gars issus de la communauté, probablement, enfin, ce n'est pas parce qu'ils ont un nom grec qu'ils sont forcément issus du paganisme. Mais là, on a affaire, parce que Étienne, on ne sait pas, mais qui est l'un des sept, les premiers martyrs du reste. Eh bien, donc on va d'abord les destiner à quoi ? À cette charge à la fois très nécessaire, mais en même temps assez trivial, s'occuper des veuves. L'exercice concret de la charité. Mais ils seront pour cela mandatés par l'Église. Et mieux que ça, ils seront ordonnés à cette tâche. Ça veut dire que quand ils exercent, parce que chacun d'entre nous peut faire ce service-là, en fait. Sauf que le diacre, et c'est le cas depuis l'apparition des diacres, depuis les sept premiers, lorsqu'ils exercent cette fonction caritative, eh bien, ils le font avec une efficacité particulière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais comme les prêtres, le prêtre qui vous parle. Ce n'est pas parce que j'enseigne, ce n'est pas parce que je suis autorisé à prêcher en chair ou à Lambon que pour autant je suis plus érudit que certains laïcs par des diplômes et bien plus sachant quoi. Ça veut dire que je suis mandaté pour cela et que, en dépit de mes défauts, et ce sera pareil pour un diacre et pareil pour un évêque, quelque chose de la sagesse de Dieu passe. C'est quand même étonnant. Je dis bien quelque chose entre eux. Alors, on pourrait croire du coup que le diaconat n'est pas d'institution divine, que c'est pas le Christ qui l'institue, puisque les diacres ne sont apparus aux actes des apôtres, au dire des actes, que après l'ascension. Et même après la Pentecôte. Alors que comprendre ? En fait, la tradition a toujours interprété la distinction voulue par Jésus, que j'ai évoquée, entre les 12 apôtres et les 70 ou 72 disciples, ça dépend des versions des évangiles auxquels on se rapporte. Cette distinction voulue par Jésus indique qu'il voulait distinguer de son vivant, si je puis dire, comme si. Enfin, voilà, lors de sa vie publique déjà. Des degrés dans le sacrement de l'ordre. On peut parler donc d'une institution du diaconat qui n'est pas une institution immédiate de la part de Jésus-Christ, mais qui est une institution médiate. Certains utilisent le terme d'implicite, mais c'est un peu... ça convient moins. Et du reste, les apôtres n'auraient jamais osé instituer, quand on connaît le tempérament conservateur du judaïsme de l'époque du Christ, il est assez improbable que les apôtres se soient aventurés à mettre sur pied, à partir de rien, quelque chose d'aussi décisif que un degré du sacrement. Vous voyez ? Ils ont dû recevoir du Seigneur Jésus un enseignement, ils ont dû le voir faire quelque chose pour pouvoir limiter, au moins indiquer une direction pour abonder. Voilà. On a souvent prétendu que dans l'Église du temps des apôtres, l'Église apostolique, il n'existait que les ministères d'apôtres et de diacres. Et puis ces apôtres, et donc leurs successeurs aussi, hein, évêques, puis les prêtres seraient apparus, donc ce deuxième maillon là du sacrement de l'ordre, donc celui qui vous parle et les autres de cette paroisse, nous ne serions apparus que tardivement pour des nécessités, des questions de pratique. Oui, parce que l'Église, connaissant une croissance exponentielle, eh bien, et les évêques ne pouvant être partout, ils auraient décidé de décliner leur propre degré de l'ordre dans un degré moindre. Voilà, les évêques de second rang, si on veut, ou les, voilà, de simples prêtres, je ne réprouve pas du tout ces expressions, elles me plaisent beaucoup, pour aller, pour les besoins de la cause, dans les campagnes, enfin là où les évêques ne siégeaient pas. Alors cette thèse est assez contestable, dans la mesure où on trouve 12 occurrences dans le Nouveau Testament où est employé le terme presbytre, presbyteros. Quand on voit de quoi il s'agit dans ces occurrences du Nouveau Testament, on voit que ce sont des hommes qui sont associés aux apôtres pour exercer des tâches essentiellement semblables à celles des apôtres. Vous voyez ? Donc, en fait, dès le début, il semble que, si on s'en rapporte à l'Écriture sainte, qui est assez digne de confiance, eh bien, on a eu dès le début les évêques, la personne des apôtres, et puis la succession apostolique se met en place très rapidement, avant même la Pentecôte, puisque, vous savez, Judas ayant fait défaut, on élit Matthias, et on le consacre, et puis, c'est mystérieux presbytéroi, donc les qu'on voit dans les 12 occurrences là, qui sont vraiment les adjoints des apôtres. Et puis ensuite, les diacres, conformément, qui ne sortent pas directement des mains du Christ, mais conformément à l'intention que le Christ a manifestée à ses apôtres. Ça va ? Oui ? Alors, à cela se sont ajoutés. Parce qu'il faut pouvoir situer les ministères, vous savez. Jean-Charles Lacoste a été institué récemment par notre évêque en vue de l'ordination diaconale qu'il recevra à la rentrée. Il a été institué lecteur et acolyte. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Est-ce que il y avait quelque chose de solennel ? C'est l'évêque qui s'est déplacé, il y a un rituel au cours d'une messe, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on a là des vestiges de ce que l'on appelait naguère les ordres mineurs et le sous-diaconat. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? Alors, ce ne sont pas des degrés du sacrement de l'ordre, ils ne sont pas d'institutions divines. Ce n'est pas le Christ qui a institué le sous-diaconat ni les quatre ordres mineurs. C'est ainsi qu'on les appelle. Et donc il reste maintenant deux ministères que Jean-Charles Lacoste a reçus. En fait, ce sont des... C'est d'institutions ecclésiastiques, mais d'institutions ecclésiastiques, ça ne veut pas dire qu'il faut les tenir pour rien. Ils ont leur importance. Et surtout, ils sont d'une haute antiquité. Le Tertullien, qui est mort en 220, qui est quand même au tout commencement de l'histoire de l'Église, évoque explicitement les lecteurs. C'est-à-dire que pour pouvoir lire les textes de l'Écriture dans le cadre de la liturgie, il fallait avoir été institué lecteur. Alors, on ne sait pas du tout en quoi consistait le rite, si vous voulez, comment était dispensé, ou comment est-ce qu'on était constitué lecteur. On n'a pas de trace. En revanche, on sait qu'il y a des lecteurs, et on sait quelle est leur mission. Proclamer la parole de Dieu à l'exception de l'Évangile, qui est dévolu depuis le début aux évêques, aux prêtres, aux diacres. Hippolyte de Rome, qui est mort un peu plus tard, en 235, nous parle du sous-diaconat. Et le sous-diaconat est quand même quelque chose de très ancien. Et on doit au pape Corneille, encore un peu plus tard, au milieu du 3e siècle, en 250, qui est mort en 253, lui donc, la première liste exhaustive de toutes ses fonctions. Donc le sous-diaconat, et il nomme ensuite explicitement les quatre ordres mineurs. Alors juste un mot sur ces ordres, mais vraiment un, enfin pour chaque ordre, l'ostiaria. L'ostiaria, ça nous permet d'être portier. Et les grooms des grands hôtels, Voilà, c'était ça. Non. Les portiers, en quoi consistait leur charge? Eh bien, dès qu'on a inventé les cloches, mais ça ne s'est pas produit tout de suite, parce que vous savez que pendant 3 siècles, l'Église était sous le joug de la persécution, donc c'est pas à ce moment-là qu'on va sonner les cloches. Hein. Mais dès que les cloches sont apparues, c'est à eux que revenait la charge de sonner les cloches pour convoquer l'assemblée. Ils étaient aussi aux portes, alors là, pour le coup, dès l'époque de persécution, pour contrôler qui s'adjoignait à l'assemblée pour la célébration de la liturgie. C'était particulièrement indiqué si on voulait éviter les intrus qui allaient ensuite rapidement délater tous les présents auprès des autorités impériales. Et ils avaient aussi pour fonction d'expulser ceux qui avaient une attitude qui ne convenait pas. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on trouve dans les récits de l'époque. Je sais pas, la fille qui arrive en bikini, le gars qui est dans le monde, je ne sais pas. Quoi. Alors non, je pense que c'est un peu plus. Et puis, lorsque l'ordre des pénitents, justement, et l'ordre des catéchumènes ont été mis sur pied, c'est eux qui régentaient un peu les places et qui expliquaient, voilà, il faut que vous mettiez là, vous mettez, voilà. L'ostiaria, donc, le portier. Ensuite, vous avez le lecteur, j'ai dit en quoi ça consistait, donc je ne vais pas y revenir. L'exorcista, ça c'est un truc qui fait... parce que dans les communautés qui vivent encore de l'ancienne forme du rite romain, blablabla, ont persisté, le Saint-Siège a permis que persistent les ordres mineurs et le sous-diaconat. Donc votre serviteur a reçu toute la myriade de trucs. Là. Chaque année, on a une croquette. C'est pas mal. Maintenant, pas le diaconat, improbable, l'ancienne année. Non, c'est la première année, on est déjà quelqu'un de très important, puisqu'on ouvre et ferme la porte, on ne sonne pas les cloches parce que tout ça est électrique. Mais enfin bon, voilà, c'est important. Le jour dit, pour la célébration, il y a une cloche et on montre bien le pouvoir imposant qui est le nôtre. Et la charge redoutable en même temps. Avant d'être ordonné exorciste en troisième année, on se prépare. On se dit, oula, il va y avoir du combat. Alors, de fait, il y a du combat, mais peut-être pas. Bon. L'exorcista, c'est. Enfin, je dis ça, le sourire aux lèvres, mais c'est quand même une charge. À l'époque, ça rigolait pas trop. C'était ceux qui assistaient les évêques au moment du rituel du grand exorcisme. Voilà. Donc, ça requérait que les gars soient un petit peu. Enfin, une vie un petit peu ordonnée, que voilà, qu'ils prêtent pas trop le flanc à l'autre, quoi. Voilà. Et c'est également on prête à ceux qui ont reçu l'exorcista, ceux qui sont ordonnés exorcistes, eh bien une prière qui a une vertu particulière de délivrance. Donc c'est beau, c'est, voilà. Ça fait pas du tout deux les grands exorcistes. Hein. Il faut surtout pas qu'ils jouent à ça. Même ordonné prêtre, c'est pas du tout notre sort. Donc ça, c'est encore la charge exclusive, pas exclusive, mais primordiale des évêques, qui ensuite délèguent à tel ou tel prêtre dont il est avéré que c'est quelqu'un qui a une vie. Un prêtre un peu exemplaire de célébrer le grand exorcisme. Voilà, ensuite, l'acolyta, c'est tout simplement le service de l'autel. Voilà. Tout ce qui touche. On va sacrer tout ce qui. Voilà. Sans pouvoir donner la communion. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les diacres eux-mêmes étaient ministres du précieux sang, donc ils étaient ministres du calice, mais ils n'étaient pas habilités à être les ministres des hosties. Voilà. Donc, et puis, alors, le sous-diaconat, ben, il a toutes sortes de fonctions qui sont. Qui au fil du temps, hein, c'est pas venu d'un coup d'un seul, consistait à observer le célibat, il prend déjà l'engagement au célibat, et puis à la récitation des heures du bréviaire, de la prière publique de l'Église. C'est-à-dire qu'il le fait au nom de l'Église et pour le bénéfice de l'Église. Et puis après, il a des tâches lors de la liturgie, voilà, c'est pas. Voilà. Et tout ce monde-là, en fait, les quatre ordres mineurs et le sous-diaconat, sont relatifs aux diacres. En fait, ce sont des assistants des diacres. Bon, enfin, alors tout ça a été, Paul VI a choisi de mettre un terme à cela en 1972, lorsqu'il a gardé deux ministères et deux seuls, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le lectorat et l'acolyta. Sachez que dans les églises d'Orient, il n'existe que deux ordres mineurs, enfin c'est comme ça qu'ils les appellent eux, c'est le lectorat et le sous-diaconat. Le sous-diacre étant une sorte de super acolyte. Voilà. Bon, comme ça nous sommes. Mais je le redis, ce ne sont pas les degrés du sacrement de l'ordre, ce sont des ordres mineurs ou des ministères qui, autrefois, donc ça faisait. Moi j'ai reçu les ordres mineurs, il y a une véritable célébration qui ressemble à une ordination. Et le magistère a tranché, ça n'est pas une ordination au sens strict. Voilà. Et maintenant on a juste une institution, comme vous l'avez vu, pour ceux qui étaient là, pour Jean-Charles Lacoste, pour d'autres. Voilà. Alors, quelques données supplémentaires. Oui.
Ils sont conférés en même temps, les ordres mineurs, ou ils sont conférés l'un après l'autre?
Alors, ils sont conférés par paire, en fait. Ouais. Alors, quelques données au sujet des 3 degrés du sacrement de l'ordre. Quoique je pense ne pas vous apprendre grand-chose, mais voilà, on peut comme ça regarder un petit peu cette myriade voulue par Dieu. Donc l'épiscopat, c'est la traduction évidente, enfin évêque de épiscopos, qui est formé de la préposition épi, en grec, hein, sur, et du verbe scopéo, qui veut dire observer. Donc l'évêque, c'est le sur-observateur. Et alors, ça ne fait pas deux extra-lucides. C'est vrai, voilà, si, il y en a quelques-uns quand même. L'évêque de Nanterre, évidemment, d'extra-lucide, c'est ça. Il me voit, quand même, je vous parle, donc je fais très attention à ce que je dis. Voilà, donc l'épiscope, littéralement, c'est le surveillant ou le superviseur. C'est un peu froid quand même. Hein. On va voir que c'est évidemment pas. Le rôle de l'évêque va bien au-delà de ça. Mais c'est un terme, en fait, qui était utilisé au départ dans l'Antiquité païenne. Comme souvent, hein, on sait bien que l'Église est une sorte de coucou qui va habiter dans les nids des autres. Elle a repris ce terme-là, qui lui semblait convenir pour décrire quelque chose de l'épiscopat, tel qu'on l'entend dans l'Église. Mais qu'est-ce que c'était qu'un épiscope dans l'Antiquité païenne? Ben, c'était tout simplement un administrateur dans le domaine civil, financier, militaire, judiciaire. Voilà. Il y avait plein d'épiscopes à l'époque. Et c'est saint Paul qui l'a repris dans ses épîtres. Et c'est saint Luc, dans les Actes des Apôtres, qui lui aussi reprend ce terme pour désigner un successeur d'apôtre, tout simplement un apôtre, voilà. Surveillant, superviseur. Et Vatican II, dans la ligne de la tradition unanime de l'Église, de la tradition constante, qualifie l'épiscopat par ces mots: il confère la plénitude du sacrement de l'ordre, que la coutume liturgique de l'Église et que la voix des saints-pères, les pères de l'Église, ont désigné sous le nom de sacerdoce suprême, ou encore de réalité totale du ministère sacré. En toute simplicité, soit dit, hein, bien sûr. Sacerdoce suprême, ou réalité totale du ministère sacré. Alors, en quoi consiste ce ministère sacré? Eh bien, c'est, premièrement, l'évêque est le seul à dispenser la totalité des sacrements. Il est par ailleurs tenu pour ce qu'on appelle le docteur authentique, c'est encore un terme qu'on emploie en droit canonique, le docteur authentique dans son diocèse. Ça, c'est lui qui répond, c'est lui qui est le garant de la transmission intègre du dépôt de la foi dans son diocèse. Et enfin, il est pasteur, il est un peu le souverain prêtre dans son diocèse, dans la mesure où il dispense tous les sacrements. Il est le docteur authentique, veillant à transmettre intègrement le dépôt de la foi, et il est le pasteur de toutes les âmes qui résident sur son territoire, sur le territoire de son diocèse. Voilà. Eu égard à cette charge, c'est à lui seul que revient le gouvernement dans ce diocèse, et il porte comme attribut, on le sait, comme insigne, la crosse. Pas pour mettre des coups de cette crosse, mais pour... s'occuper des brebis et parfois user de cette crosse pour rattraper les brebis qui seraient tentées de s'en aller. Et pour le dire plus positivement, aujourd'hui c'est le principal artisan en principe, en tout cas c'est lui qui est le garant, l'organisateur de la nouvelle évangélisation. D'aller chercher ceux qui ont de plus ou moins longue date quitté le bercail pour aller sur des pseudo-verts pâturages ailleurs, hop, ils doivent être des non pas des propagandistes, baptisme et des promoteurs de la grâce baptismale qui a été reçue par ces gens-là. Voilà. Et par ailleurs, l'évêque, et ça donne une tonalité très, très belle, très suave à sa charge, l'évêque tient la place dans son diocèse du Christ époux. Et la nature nuptiale de sa mission, vous voyez, c'est pas seulement, on est passé de scrutateur, de surveillant, de superviseur à époux. C'est quand même plus beau. Enfin, il y a des époux qui sont des scrutateurs, mais bon, des épouses aussi. Hein, bon. Mais vous voyez, la nature nuptiale de sa mission apparaît, vous savez, dans cette. Est matérialisée par le fait qu'il porte l'anneau qu'il reçoit lors de sa consécration épiscopale. Dans le, petit détail, mais qui a son importance, lors de sa nomination épiscopale, à partir de sa nomination, l'évêque peut porter les attributs de l'évêque, je veux dire la croix pectorale, voilà, la calotte, tout ça, mais il ne porte pas son alliance. L'alliance lui est remise le jour de sa consécration épiscopale, lorsqu'il devient véritablement le lieutenant, celui qui tient lieu du Christ époux. Ce qui entraîne une ribambelle de considérations, en fait, d'implications. La mobilité très grande des évêques aujourd'hui, bon, on dira que nécessité fait loi, notamment dans les contrées de vieille chrétienté, on ne se bouscule pas au portillon pour être un évêque, ou voilà, il faut organiser sans cesse ce territoire, gérer la crise, en somme, implique très souvent que des évêques passent d'un diocèse à l'autre. Il est fréquent que des évêques aient été évêques de deux ou trois diocèses. Voilà. Mais c'est une anomalie. Parce que, de même que vous, époux, n'avez plus d'épouse ou qu'un époux, et bien de même, en principe, celui qui porte l'alliance nuptiale ne devrait n'avoir qu'une épouse. Et les pères de l'Église y ont beaucoup insisté là-dessus. Sur cette, et plus tard dans l'histoire de l'Église, lorsque certains évêques avaient la bougeotte, ils restaient toujours attachés au même diocèse, ils étaient bien évêques du même diocèse, mais par exemple, ils ne résidaient pas dans le diocèse. Non, ils avaient une propriété de famille quelque part, qui était quand même beaucoup plus sympa. Donc, mais c'était le cas, je vous assure. Et il a fallu que les autorités romaines tapent du poing sur la table, vous voyez que c'est à nouveau, en disant, mais vous rigolez quoi, les gars ? Vous êtes un époux et père, donc vous allez me faire plaisir de résider à la maison et de vous occuper de votre épouse et de vos marmots, parce que là, ça ne va pas du tout. Concile de Trente, notamment, a véhémentement rappelé au devoir de résidence les évêques, voilà, pour ce motif-là. D'autant que quand on n'est pas là, c'est... le motif revient, il y en a un autre. Hein. Bon. Voilà, c'est pareil. Et d'autre part, alors lorsque ça c'était dans l'ancienne forme du rite romain, pour le trilogue pascal, en tout cas à compter du vendredi saint, l'évêque retirait son alliance jusqu'au jour de la résurrection pour manifester la séparation pour un temps, vous voyez, d'avec son épouse, pour mieux incarner le deuil de l'épouse au moment de la mort de son époux le Christ. C'est beau, hein, comme, enfin, je trouve que le symbole est assez éloquent. Voilà. Et alors, le caractère exorbitant des fonctions, là, j'ai dit qu'il était plein de trucs à la fois, docteur authentique, dispensateur, enfin, souverain prêtre dans son diocèse, pasteur des âmes, etc., époux, où il tient, il représente le Christ époux. Bon, le caractère exorbitant de ces fonctions sont toutefois pondérés de deux manières, par en haut et par les côtés, quoi. Pour éviter que le gars se parte telle une fusée, je ne sais pas trop où. Par en haut, évidemment, il ne peut être que cum petro et sub petro, hein. De même que les apôtres étaient soumis à l'autorité du premier d'entre eux. Lorsque Jésus dit à Pierre, affermis tes frères, voilà, ça veut dire affermis-les, ça veut dire encourage-les, mais ça veut dire aussi, voilà, surveille-moi ça. Bon, sans méchanceté, bien sûr. Et l'évêque, donc, est évidemment soumis, de la même manière, à l'autorité du pontife romain. Seul le pape est, en effet, garant de l'unité de la partie terrestre de l'Église, du corps mystique, dans ce qu'on peut toujours appeler, d'ailleurs, l'Église militante, ou qu'on appelle plus volontiers l'Église pérégrinante. Alors là, pour le coup, les prérogatives du pontife romain sont absolument exorbitantes. Alors pour le coup, nul ne juge le pape, par exemple. Nul ne fait appel d'une décision définitive rendue par le pape. C'est quand même... alors pareil, le pape, il n'est pas tout seul. Au-dessus de lui, il y a quand même trois personnes qui sont très attentives. Hein, et puis, toute une ribambelle de devanciers sur le trône de pierre. Et puis, enfin voilà. Mais c'est assez fou, quoi. Dans un contexte actuel de démocratie généralisée, là, on a affaire à un... Je veux bien que même le pape François renonce à certains titres, vicaire du Christ et tout, ouais, il n'en demeure pas moins que dans le code de droit canonique, c'est gravé dans le marbre, ses prérogatives sont absolument lunaires. Il a un pouvoir ordinaire, universel, direct sur chaque baptisé, catholique bien sûr. Ordinaire, universel, direct. Donc s'il le faut, on peut passer par-delà toute la hiérarchie. Enfin, toute la hiérarchie, en réalité, ça veut dire l'évêque. Parce que de l'évêque au pape, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Je veux dire, il y a une hiérarchie de l'un à l'autre, mais il n'y a pas d'intermédiaire. J'y reviens. Donc, vous voyez, c'est d'ailleurs, il faut recevoir le mandat pontifical, c'est-à-dire l'autorisation du pape, pour pouvoir être nommé et consacré, a fortiori, évêque. On livre, sans doute avez-vous déjà assisté pour une part d'entre vous à la consécration épiscopale. Alors c'est très beau, parce que comme le disait mon ancien chef, on crache, comme il disait, je sais plus, on pond de la peau, on crache de la peau. Bon, il disait pas ça, il était ébouriffé, c'était des expressions qui lui venaient en tête. Bon, chacun son jargon, et il était stupéfait, quoi. Il disait c'est fou. Là, paf, il y a un apôtre qui vient d'être prostitué, quoi. Avec l'évangélière qu'on met sur la tête, et tout ça, c'est quand même très impressionnant, c'est vrai. Et, comment dire, on lit au début, vous savez, la bulle papale, par laquelle le pape, tutoyant le candidat, ça fait plus antique, c'est une coutume dans l'Église, dans ce genre de circonstances, que de tutoyer, comme on pourrait le faire dans les sacrements, pour se dire la joie, sa joie propre de pouvoir faire consacrer un évêque, parce qu'il en consacre lui-même personnellement assez peu, mais et aussi pour rappeler les exigences de la charge épiscopale à l'impétrant. Hein. S'il n'y a pas cette bulle, s'il n'y a pas l'aval du pape, alors la consécration, l'ordination épiscopale est parfaitement valide, mais illicite. Le candidat, il y a un exemple notoire de cela dans l'Église de France, enfin pas de France en fait, d'Europe, mais parce qu'on avait, ce sont les quatre évêques qui ont été consacrés par Mgr Lefebvre en 88, sans le mandat pontifical. Voilà. Alors la sanction qui tombe est directe et sans appel, c'est l'excommunication. Pour les candidats, pour les impétrants et pour ceux qui dispensent les ordinations. Donc, Mgr Lefebvre et ceux qui l'assistaient, Mgr de Castromeyer, je crois, ou Rangel, je ne sais plus, et puis un troisième. c'est pas de la volonté positive du pape, c'est juridiquement prévu. Voilà. On parle d'une excommunication late sententiae, c'est-à-dire que par le fait même de poser l'acte, on est excommunié. La différence des excommunications qu'on appelle ferende sententiae, c'est-à-dire il faut que le pape lui-même fulmine, on dit, le terme est brutal, explicitement dise ça ne va pas, j'excommunie. Voilà. Et alors, donc ça c'est la première limite, donc c'est l'homme en blanc. Et puis la deuxième limite, qui n'est pas castratrice, on s'entend, mais qui est juste le gage de la catholicité de ce qui se passe. Eh bien, c'est l'évêque n'étant pas une monade isolée, il fait partie du corps épiscopal. Ordo episcoporum, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre des évêques. Voilà. Et entre eux existe ce que désormais on qualifie de collégialité épiscopale, C'est un terme en réalité qui est assez récent, qui date de Vatican II, voilà, qui entend formaliser ce que la tradition antécédente avait élaboré. Il y a eu des débats très vifs à cette époque-là, notamment entre la branche, bah, justement, à laquelle appartenait Monsieur Lefebvre, mais pas seulement, lorsqu'il était supérieur général des Spiritains et ex-archevêque de Tulle, enfin, ex-archevêque de Tulle, le père abbé de Solesmes, le maître général des Dominicains, le cardinal Brown, etc., avait Ottaviani, qui était le secrétaire général du Concile, ce qu'on a appelé le Cetus, l'assemblée des pères, disons conservateurs, s'était opposé au fait que l'on définisse, que l'on parle, que l'on évoque la collégialité épiscopale. À mon sens, c'était, parce que c'est un sujet que j'ai un peu bossé, c'était pas tant le... comment dire... enfin, c'est un peu nuancé, mais... c'est surtout la dénomination qui leur faisait peur. Collégialité épiscopale, ça semblait diluer, en fait, la responsabilité de l'évêque dans son diocèse, tel que je l'ai décrit plus haut, vous voyez. Sachant que depuis l'époque apostolique, chaque apôtre est parti dans sa direction. Bah, il suffit d'ouvrir les actes ou de savoir l'histoire subséquente. Saint Paul a fondé des églises, Saint Jean a fondé les siennes, Saint Pierre, enfin, surtout, ça allait dans une direction. Et ils avaient tous une souveraineté dans sur le territoire de leur diocèse. Encore une fois, un époux, un père. C'est pas une famille avec un trouple, un quadruple, ou je sais pas quoi. Et donc il semblait au père du Cetus, de la minorité conservatrice, qu'on attendait là, encore une fois, à la vraie responsabilité et en même temps à la liberté de l'évêque dans son diocèse. J'entre pas dans le débat, mais je vous signale juste ça au passage. Quoi qu'il en soit, même ces pères de la minorité conciliaire étaient tout à fait d'accord pour reconnaître qu'on n'est pas évêque seul, et qu'on appartient, je le redis, à l'ordo episcoporum, ça depuis la nuit des temps, enfin depuis le début de l'Église. Du reste, depuis le début, enfin depuis une époque très reculée, la consécration, pour consacrer un évêque, il faut au moins trois évêques. Ça dit déjà le caractère fraternel, disons, de l'événement et de l'épiscopat. Mais, ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que, conjointement à cela, à la collégialité épiscopale, l'évêque ne répond de l'exercice de sa charge que devant le souverain pontife. Même s'il va en visite à Limina avec tous ses confrères, tous ses frères évêques de la même région, du même pays, ou je ne sais quoi, c'est un à un que les évêques vont devant le pape, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Mais pour marquer le coup, pour bien montrer cela, chaque évêque va personnellement saluer le Saint-Père. Voilà. Et soit il y a un petit mot charmant s'il n'y a rien à dire, soit un peu moins, soit des louanges, soit tout ce qu'on veut, mais c'est individuellement. Vous voyez, on a la conception très démocratique des choses que l'on a pourrait nous faire croire que en fait, non, ils sont tous...
Et dans
l'orthodoxie, c'est pareil. Le Saint-Synode, c'est la même chose. Chaque évêque est chez lui. On disait même autrefois, ça c'est chez nous qu'on disait ça, je ne sais pas comment les orientaux disaient, on disait que l'évêque est pape en son diocèse. Alors, on se comprend, hein, à la nuance de ce que... Enfin, la nuance qui va... C'est quand même le pape qui fait l'évêque, et c'est lui qui garant l'unité catholique. Mais, voilà. Donc ça veut dire que même l'archevêque métropolitain, vous connaissez cette distinction, vous savez, au-dessus ici à Nanterre, nous avons Monseigneur Rouget, et au-dessus de lui, enfin, il semble qu'au-dessus de lui, on est l'archevêque de Paris, qui est le métropolitain, en gros, de l'Île-de-France, quoi, pour la faire brève. C'est vrai qu'il doit y avoir une certaine révérence à l'égard de l'archevêque de Paris, une préséance dans toutes sortes de célébrations, de réunions, de ne sais quoi. L'archevêque est là pour coordonner les choses. Mais il n'a pas, et il peut, c'est vrai, avoir une influence pour la nomination, par exemple, d'évêque de sa province métropolitaine. Bien sûr, il est consulté. Mais il n'a pas d'autorité hiérarchique véritable sur l'évêque de Nanterre, de Versailles, de Souvet. Voilà. Idem pour les conférences, a fortiori même pour les conférences épiscopales qui sont de fraîche date, ou pour les synodes qui sont pour le coup plus anciens, les synodes d'évêques, on avait déjà au Moyen-Âge et dans l'époque postérieure. Ce ne sont que des réunions qui sont faites pour optimiser les options pastorales, pour les dire avec des. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour optimiser l'apostolat, pour. Voilà, pour se consulter mutuellement, faire en sorte que chacun aille bien, parce que les évêques sont à la tête de diocèse, c'est pas pour autant qu'on connaît la solitude du chef. Donc, de même qu'il faut prendre soin de tous les baptisés, de même qu'il faut prendre soin des prêtres, parce qu'un prêtre seul est en danger, il y en a, idem pour un évêque. Là aussi, on pourrait être trompé par le fait que l'évêque étant rarement seul, puisqu'il préside à plein de choses, ça va, quoi. Ben non, en fait, l'évêque, tant en temps, il a besoin d'aller vider son sac et de. Entre frères, avec ceux de son rang, quoi. Voilà. Mais là encore, le synode des évêques, les conférences épiscopales n'ont pas à interférer dans l'administration de chaque diocèse. Ce qui est très compliqué. Hein. C'est évidemment. Parce qu'on a un peu un tropisme de la majorité ou de la masse. On a beau dire ça. L'évêque qui, à la conférence des évêques, dirait « Eh les gars, je m'en fous de ce que vous me dites, je retourne dans mon diocèse, bientôt. Hein. » Bon, ça ne se passerait pas très bien. Ensuite, il y a une question de prudence, une question de politique, au sens ecclésial du terme. Mais le fond de son propos serait vrai. Chez lui, il est chez lui, quoi. Il est dans sa maison. Ensuite, le presbytérat, qui est ce degré... tout à fait imminent, tu sais, plus encore que l'épiscopat, bien entendu. Donc, on y reste. Eh bien, Mespiteros, je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire l'ancien, ce qui est assez ironique lorsqu'on voit l'âge moyen des nouveaux ordonnés. Enfin, voilà, le père Clément, quand il est arrivé il y a 3 ans, du haut de 57 ans, il était déjà un ancien. Alors voilà comment la constitution Lumen Gentium de Vatican II, qui traite de l'Église, dit les choses. Ils sont, donc les prêtres, les coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal. Je ne sais pas exactement ce qu'on doit entendre par avisé, mais en tout cas c'est dans le texte. Bon. Dont ils sont l'aide et l'instrument. C'est une sorte des jouets de nos évêques. L'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, les prêtres constituent avec leur évêque un seul presbytérium, ça vous connaissez le terme, aux fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent, ça ça attire mon attention, j'avoue que j'avais pas prêté attention auparavant, ils rendent d'une certaine façon présent l'évêque dans une communauté de fidèles. Ben, je laisse cette charge au curé, hein, il le fait très bien. Auxquels ils sont associés d'un cœur confiant et généreux, à l'évêque, et au curé aussi, bien sûr, assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre, etc. Et le catéchisme de l'Église catholique, qui reprend cette citation de Lumen Gentium que je viens de vous faire, donc les coopérateurs des évêques, ceux qui rendent d'une certaine façon présent l'évêque, etc. Voilà ce qu'il dit au numéro 1567, il poursuit, après cette citation. Les prêtres ne peuvent exercer leur ministère qu'en dépendance de l'évêque et en communion avec lui. Oui, ben ça on sait. Enfin, on s'en doute, non, mais après, quand on a un bon évêque comme ici, voilà. Ah, ça coûte pas cher de failloter. Monseigneur, si vous écoutez cet enregistrement, d'abord merci. Pardon aussi, hein, mais je vous aime. Touchez ma bosse. Voilà, donc il poursuit en disant la promesse d'obéissance qu'ils font à l'évêque au moment de l'ordination, ça c'est vrai, ça engage quand même. On met, comme au Moyen-Âge, là, le vassal mettait les mains dans les mains de son suzerain. Et ben, c'est la même chose qu'on fait, il ajoute devant lui, s'il vous plaît, comme ça. Et on promet obéissance, promito. Bon, et ensuite, donc, il y a ce moment fort avec les mains dans les mains et le baiser de paix. Donc l'accolade à l'évêque, à la fin de la liturgie, pour montrer que l'évêque les considère comme ses collaborateurs et aussi comme ses fils, ses frères et ses amis, dit le, je finis, le catéchisme, et qu'en retour, ils lui doivent amour et obéissance. Dans l'ancien rite d'ordination des, l'ancien rituel d'ordination des prêtres, à la fin, on chante, il y a une très belle antienne, qui, en latin, c'est, le début, c'est « Iam non dicam », « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et c'est quelque chose de très émouvant, évidemment, qui, à travers les âges, vient directement du Christ, ce qu'il a dit à ses apôtres, mais c'est aussi quelque chose qui passe par l'intermédiaire de celui qui tient la place du souverain prêtre dans le diocèse, donc l'évêque, et du père. Donc c'est aussi l'évêque qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur ». Les mots doivent être, oui, mais ami. On devient ami de l'évêque et fils de l'évêque. Saint Charles Borromée, Saint Robert Bellarmin, reprenant des expressions des pères de l'Église, hein, donc Borromée, Bellarmin, c'est l'époque baroque, le concile de un peu au trou, quoi, le 16e siècle, reprenait comme une expression bien connue des pères de l'Église qui disait que les prêtres sont comme les joyaux de la couronne de l'évêque. Non pas pour, comment dire, mettre éhontément en valeur les prêtres, les faire, les rendre fieraux, hein, pas du tout. Mais pour, ou aussi la prunelle de ses yeux. Voilà. C'est pas facile d'être évêque, hein, quand même, dans ces conditions, parce que faut accepter d'avoir des prêtres au tempérament très différent, aux options très différentes, et continuer à être un père, et considérer qu'on a affaire vraiment au père de sa couronne ou à la prunelle de ses yeux, quand il serait parfois beaucoup plus simple ou aimable de préférer les laïcs, qui sont tout à fait sympathiques. Ou, mais,
ouais. Ce vœu d'obéissance, quel sens il peut prendre quand il est remis dans les mains d'un évêque qui n'est pas diocésain, par exemple, pour
C'était mon cas.
Un prêtre religieux ou un comité ecclésiastique.
Ouais. Dans les sociétés de vie apostolique ou dans les trucs comme ça, c'est des termes techniques pour dire que des gens qui ne relèvent pas d'un évêque territorial, enfin qui sont de communautés, quoi, avec des antennes un peu partout, ou qui relèvent directement de l'autorité du Saint-Siège, ce qu'on appelle les communautés de droit pontifical, ou les religieux, effectivement, ou les moines, les pères abbés, et à fortiori les mères abbesses, n'ont pas l'autorité d'ordonner. Donc on fait venir, alors dans les monastères on fait venir l'évêque du lieu normalement. Et il y a des exceptions, mais normalement, c'est même si c'est pas, on n'est pas de droit diocésain. Après on peut faire venir un évêque ami ou un ancien confrère qui est devenu évêque. Mais c'est vrai que c'est un peu artificiel. C'est vrai. Moi-même j'ai promis obéissance à Monseigneur Guédon, je ne sais pas si certains l'ont connu, ancien évêque de Cahors, qui était natif de Dijon, un saint homme. Qui était alors un vieux monsieur, mais et justement, on en a parlé avec lui avant d'être ordonné. On disait, on va essayer à travers vous d'être fidèle à vos frères évêques, mais vous ne l'avez jamais revu. Il en est mort, non. Maurice, je crois, Armageddon. On appelait Armageddon. Non, il n'avait rien du tout de Armageddon, il était tout doux. Voilà. Et l'étroite dépendance du prêtre, on aime bien les symboles dans l'Église. La liturgie n'est qu'un une montagne, pas une, c'est pas le bon terme, un foisonnement de symboles et de. Voilà, les signes sensibles, les sacrements, je vous rappelle. L'étroite dépendance du prêtre envers son évêque. Et le fait qu'il ait ce qu'on appelle les pouvoirs liés, c'est un terme canonique, qui n'a plus trop cours, mais on voit ce que ça veut dire. Pour le sacrement de confession, par exemple, il faut recevoir les pouvoirs de l'évêque, de son évêque. Et en principe même, il faudrait recevoir les pouvoirs. Alors maintenant, ça, on a assoupli les choses, parce que autrefois, quand on passait la porte de son propre diocèse et qu'on entrait dans un autre, il fallait obtenir l'autorisation du prêtre. De l'évêque de l'autre diocèse explicite pour pouvoir confesser, voilà, sans quoi on s'abstenait de confesser. Alors, pour un conscout ou un truc comme ça, voilà, ça se faisait. Évidemment, étant donné la mobilité que la société occidentale a prise désormais, on a assoupli les choses et désormais, voilà, quand on a reçu les pouvoirs dans un diocèse, on le reçoit dans les autres, automatiquement, on l'a dans les autres. Sauf à ce que l'évêque d'un diocèse particulier vous dise non. Ils disent, dans mon diocèse, les pouvoirs sont liés. Ça arrive lorsqu'il a eu des problèmes avec des prêtres d'autres diocèses. Ça arrive à Rome. Le diocèse de Rome est un diocèse dans lequel il faut obtenir l'autorisation explicite de l'évêque de Rome, suivez mon regard. Alors, c'est évidemment pas le pape qui va passer sa journée à signer des trucs, il a déjà beaucoup à faire, mais c'est le cardinal vicaire, donc celui qui tient sa place dans l'administration du diocèse de Rome, qui donne les pouvoirs. Alors, on jouit quand même d'un battement de 2 mois. Comme ça, on peut pendant 2 mois confesser à outrance, et après, on nous dit, alors, si vous voyez le papier enfin, ça, c'est anecdotique, mais si, ça dit quand même assez bien, vous voyez, encore une fois, l'autorité de l'évêque. Et le fait que les prêtres lui soient vraiment redevables, subordonnés. Quoi. Et naguère, là encore, dans la forme extraordinaire du rite romain, le prêtre porte, peut-être ça vous a étonné entre vous, non, mes confrères ne font pas ça, mais si vous venez à la messe, soit à la messe de 9h30, vous êtes les bienvenus, mais ceux d'entre vous qui venez à la messe de 11h30, par exemple, peut-être avez-vous porté l'étole croisée. Pas, sur la poitrine. Et en fait, ça, c'est la coutume pour les prêtres de second rang, donc les prêtres, les simples prêtres, d'avoir cette étole croisée pour manifester par ce signe-là que nous avons les pouvoirs liés. Tandis que l'évêque porte l'étole droite. Voilà. Détail, hein, c'est pas du tout fondamental, mais c'est voilà. Oui, pardon.
En cas de pèlerinage à Rome, par exemple,
oui.
Un pèlerinage qui est conduit par un prêtre, il peut confesser.
Ah ben oui, je vous dis, pendant deux mois, vous avez précisément, parce qu'il prévoit ce genre de un symposium, un synode, une session synodale, ou je ne sais quoi, oui, bien sûr. C'est pas, et puis on l'obtient presque automatiquement.
Et est-ce que cette règle est valable aussi pour la célébration de la messe?
Non.
D'accord, ça, il n'y a pas d'autorisation à
demander quand on passe un décès de la messe. Après, il y a l'histoire de la forme rituelle, de manière générale, on n'a pas demandé autorisation. Par courtoisie, quand on est sur le territoire d'un curé, on ne va pas aller voir l'évêque, sinon les pauvres, ils passeraient leur temps à régler les menus détails des prêtres de base que nous sommes. Mais par courtoisie, quand même, ça se fait d'aller voir le curé.
Mais dans l'absolu, vous pouvez célébrer même sans autorisation.
Oui, on peut célébrer sans autorisation. Voilà. Et alors, si le sommet de l'exercice du sacerdoce consiste à célébrer la messe, ça nous est dit explicitement le jour de l'ordination, pour les vivants et les morts, du reste, ajoute l'évêque, eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, peut-être ne le savez-vous pas, le prêtre n'est pas strictement tenu de célébrer la messe tous les jours. Ouais. Et d'ailleurs, il fut un temps où prêtre et évêque, célébrait assez peu la messe. Bossuet a relativement peu célébré la messe, par exemple. Étonnant. Avec de Beaux, aumônier de la couronne. Voilà. Et alors, ça s'est systématisé. En tout cas, le Concile de Trente y a largement insisté, étant donné la valeur inouïe de la messe, et puis également parce que c'est là qu'on rencontre son Seigneur, quoi. Ne serait-ce que pour le prêtre. C'est quand même assez. Un prêtre qui ne célébrerait pas régulièrement la messe est un prêtre probablement qui commence un peu à faiblir. Ouais.
Oui. Il fallait à un certain moment qu'il y ait une assistance.
Alors exactement. Le père de Foucault a fait sauter le verrou. Enfin, on lui impute ça, tant mieux, on prête pour riche. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait la même chose que lui. Il fallait avoir un servant, minimum. Mais ça, c'était plus en cas de pépin, quoi. Si le prêtre s'évanouit ou meurt et que restent les saintes espèces, c'est un peu moyen, quoi. Ou si simplement il perd un peu la tête ou qu'il est étourdi et qu'il ne dit pas les paroles. Enfin voilà, ça peut arriver. Hein. Il m'est arrivé de reprendre un prêtre au séminaire. Pas du tout, je lui donnais aucune leçon, simplement il prenait un peu de l'âge et donc il était un peu. Il avait simplement oublié de consacrer l'église, quoi. Du coup, ça rend invalide toute la messe. Il faut. Voilà. faut dire les paroles consécratoires du pain, sur le pain et sur le vin pour qu'il y ait dans les boîtes. Bon, enfin là, on a atteint des détails très Et alors donc, aussi bien le prêtre n'est-il pas tenu de célébrer quotidiennement, alors sauf s'il il faut qu'il célèbre tous les dimanches, et s'il le requiert, toujours pareil, il n'est pas prêtre pour soi, le soin des fidèles. Si, il n'est pas question que le prêtre reste muré chez lui si des paroissiens veulent la messe. Ça, a fortiori, s'il est curé. Ça, c'est complètement hors de propos, quoi. Mais en revanche, et c'est ce qui est un peu paradoxal, je trouve, mais en revanche, le prêtre, et d'ailleurs déjà le diacre, avec des aménagements, et l'évêque aussi, sont tenus, là pour le ténétour, en latin c'est strict, de réciter le bréviaire, quotidiennement, l'office des heures. Ça dit quelque chose quand même sur le. Autrefois, c'est un peu les expressions qu'on utilisait dans les séminaires. Bon, ça continue un peu à se dire aujourd'hui, mais bon. Je pense que c'est le truc qui aurait agacé le père Montpierre, vous voyez, parce que je pense qu'il en a soupé quand il était scénariste, ou je ne sais pas quoi. C'était « Mon bréviaire, c'est ma femme ». Cela dit, c'est pas bête. Et vous avez tous vu, enfin, je parle à tous, donc du coup, mais vous avez, les prêtres de votre enfance, probablement, pour nos aînés, ils se baladaient souvent avec le bréviaire sous bras. Voilà. D'abord, c'est un bréviaire substantiel. Donc, dès qu'il trouvait un moment en tête, ouais, voilà. Et même, en fait, quand il y avait des messes dans la paroisse, mais ce n'était pas qu'on célébrait, puisque ça n'existait pas. Et vous aviez, par exemple, M. le curé qui célébrait la grand-messe, ses confrères confessaient, ou tapaient la carte, j'en sais rien, mais venaient pour donner la communion, aider à donner la communion, par exemple. Et puis, ils avaient le bréviaire sous bras, quoi. Et donc, ça faisait un peu bizarre, mais ils chapelettaient ou ils bréviarisaient, quoi, comme on dit vulgairement. Vous voyez Alors, on peut trouver ça un peu déplacé dans le cadre d'une messe, etc. Enfin, rien ne remplace l'Eucharistie, bon, je suis tout à fait d'accord. Mais ça dit l'attachement qu'ils avaient bien, dont ils étaient parfaitement conscients, à l'office, qui est la prière publique de l'Église. En fait, c'est l'épouse qui parle à l'époux. C'est beau, hein, la liturgie des heures, c'est ça. C'est l'épouse qui parle à l'époux en utilisant les mots mêmes que l'époux lui a enseignés. Il lui a dit dans le creux de l'oreille, l'époux, le Christ, tous les mots qu'il aimait bien s'entendre dire. Et hop, l'Église, bah, pour plaire à son époux, et par amour, lui susurre à l'oreille, lui hurle au visage, parce qu'il y a un peu de tous les tons, hein, dans les psaumes, dans les antiennes. Voilà. Ça dit la place centrale que doit avoir l'intimité dans la prière, en fait, de tous les ministres. Et puis enfin, le diaconat. Diaconos, c'est serviteur ou assistant en grec dans l'antiquité païenne, parce que là encore c'est un terme qui existait avant le christianisme. Ça désignait plusieurs catégories de fonctionnaires, voilà. Bon, un peu comme les épiscopos, mais un degré moins, l'épiscopole, mais un degré moins. Ils étaient investis de diverses charges publiques, voilà. Et Saint Pierre dans les Actes, lorsqu'il dit qu'il veut ordonner des diacres, il dit que c'est pour le service des tables. Service des tables. À la différence des évêques et des prêtres, les diacres ne participent pas de la fonction sacerdotale. Ils aident à la fonction sacerdotale. Hein, la tradition apostolique, qui est un document du 3e siècle, et qui est très, très vénéré dans l'Église, dans les Églises d'ailleurs, toutes, même chez les protestants, c'est vraiment un récit très... Eh bien, dit ceci, le diacre n'est pas ordonné pour le sacerdoce, mais pour le service diaconien de l'évêque. Et du reste, le fait que ce lien-là, très, très intime, avec son évêque, ou plutôt, pardon, d'abord, le fait qu'il soit un serviteur, apparaît de manière qu'il soit un trait d'union entre les baptisés et les prêtres et les évêques, apparaît au plan liturgique plus clairement, me semble-t-il, dans les liturgies orientales, et particulièrement la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la grande liturgie de l'Orient, Peut-être avez-vous vu cela, vous l'attendiez. Donc vous avez l'iconostase avec les grandes portes, c'est la porte centrale derrière laquelle se trouve l'autel, et puis les petites portes. Et les diacres ne cessent d'aller et venir, vous savez, portant leur étole comme ça, et les liturgiques, et les objets liturgiques, les cierges, et voilà, plein de trucs. Et ils font des va-et-vient entre derrière l'iconostase, le sanctuaire, quoi, où se trouve le clergé, et l'assemblée. Soyons attentifs, amine, 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 des trucs comme ça. Voilà, on ne sait pas, ils parlent de tout comme ça, mais. Ils expliquent au gré de la célébration, de manière très rituelle, hein, ce qui se passe de l'autre côté. Et ça manifeste. En fait, ils tiennent la place des anges, figurez-vous. Enfin, c'est l'ambition qu'a la liturgie chrysostome. Ils vont et viennent, comme les anges sur les chaînes de Jacob, pour faire monter les prières des fidèles à l'autel et pour faire expliquer ce qui se passe au ciel, des mystères, des saints mystères, comme on dit beaucoup en Orient, qui sont en train de se passer sur l'autel. Oui.
Alors ça n'apparaît pas du tout dans la liturgie latine.
Alors ça apparaissait un peu, ça apparaît un peu dans la forme extraordinaire, ce qu'on appelle la liturgie à trois chevaux. Alors c'est vrai que c'est bien plus modeste.
On est d'accord. On a l'impression qu'on se demande à quoi ils servent.
C'est vrai.
Ils interviennent à deux, trois moments. Mais...
Alors, dans l'ancienne forme, ils interviennent quand même beaucoup. Hein. Je me souviens de. Ça avait requis des répétitions et des répétitions et des répétitions. C'était pire que pour apprendre à célébrer la messe. Enfin, pire, on s'entend. C'est très beau d'apprendre à célébrer la messe. Parce que c'était assez. Il y avait plein de trucs. Mais le sous-diacre, vous savez,
oui.
Il se tient. À un moment, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Le sous-diacre se tient. Il y a le prêtre qui est à l'autel, il y a le diacre qui est sur les marches, il y a le sous-diacre qui est au milieu du chœur. Le sous-diacre porte la patène dans un voile, le même voile que pour le salut Saint-Sacrement ou la bénédiction, machin, qu'on appelle un voile huméral, et il tient la patène comme ça, devant les yeux. Et bien, il symbolise un ange de la face qui est en train de chanter la gloire de Dieu. Il est le pendant de l'ange qui est directement devant Dieu. C'est un petit élément, mais bon. Et il tient quoi dans la main? Il tient la patène. C'est significatif parce que la patène, c'est sur celle-ci que non seulement va être offerte l'hostie, mais aussi toutes les intentions que nous devons bien offrir les paroissiens, enfin l'assemblée. Voilà. Donc, il descendant et ascendant, quoi. Bon, c'est pas grand-chose. Et du reste, le fait que le diacre tienne un peu la place d'un ange pour faire des va-et-vient apparaît largement dans les représentations picturales des anges. Je ne sais pas si vous. On voit souvent les anges représentés avec une dalmatique, une étole diagonale. C'est assez étonnant. Hein. Ils sont les serviteurs et les diacres sur terre sont leur pendant. C'est beau. Bon. Et alors, les attributions des diacres ont considérablement évolué au fil des siècles. Beaucoup plus que les évêques et les prêtres, sur lesquels c'était fixé depuis le début. Voilà. Aujourd'hui, ils ont un rôle. Là, je parle de l'Église latine. Hein, ils ont un rôle qui est quand même très, très important. Et je cite Lumen Gentium, donc toujours la constitution du Concile Vatican II sur la constitution de l'Église. Il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et de distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, donc de recevoir les consentements, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, proclamer l'Évangile, quoi, d'instruire et d'exhorter le peuple, de prêcher en chair, quoi, ou à l'embon, de présider au culte, à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, à tous ces rites qui ne sont pas les sacrements, mais qui sont au service des sacrements, de présider aux rites funèbres, à la sépulture, etc. Et par ailleurs, consacré aux offices de charité et d'administration, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de Saint Polycarpe être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. Saint Polycarpe, le Seigneur, qui est le disciple de Saint Jean, enfin un des disciples de Saint Jean, et le maître de Irénée, de Lyon. Donc, alors comme on a coutume de dire diacre bien d'un jour, diacre toujours, ça concerne également les prêtres et les évêques, évidemment, ces consignes-là. Être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur. Bon. Et ouais, bon. Voilà. Et le fait qu'il était serviteur, là encore, se manifestait par un élément tangible, de matériel, et continue de l'être en Orient et dans la liturgie, dans la forme ancienne du rite romain, avec le manipule, qui est l'espèce de petite étole là, qu'on porte accrochée au bras, qui sert pas à chasser les mouches, ou à je sais pas quoi, ou qui n'est pas seulement une épreuve qu'on doit passer pour éviter de renverser des trucs avec ce truc, cette chose qui ne sert à rien, qui est tout simplement, premièrement, le torchon de service, bizarrement, qui sert également à s'éponger le front, enfin, qui servait à s'éponger le front lors de la célébration des liturgies, voilà, qui était aussi un signe d'attribution de service. Alors le diacre est directement lié à son évêque, sans passer par la case maître. Voilà. Il est directement lié à l'évêque. D'ailleurs, sa place, lorsque dans une liturgie qui est célébrée ou qui est présidée par l'évêque, en atteste. Et vous l'avez vu dans la paroisse à plusieurs reprises, quand l'évêque vient ici, dans une messe solennelle, enfin une messe qu'on essaye de faire pontificale, mais bon, qui est loin du bord, les diacres sont directement de part et d'autre de l'évêque. Voilà, ils sont ses assistants. Et d'ailleurs, lors de son ordination, l'évêque ne reçoit l'imposition des mains que du seul évêque. Alors que, comme vous avez pu le constater, pour bien témoigner qu'il est au service, à la main, c'est le cas de le dire, peut-être que ça vient de derrière, je ne sais pas, à la main, qu'il est directement attaché à l'évêque. Et aucun prêtre ne vient lui imposer les mains. Alors qu'à l'ordination sacerdotale, vous le savez, vous avez une longue cohorte de prêtres qui vient imposer les mains à l'ordination. Voilà. Pour manifester l'unité du prêtre intérieur, le fait que nous sommes frères. Voilà. Alors, ça va tout ça? Il y a un mélange par le petit bout de la lorgnette, par les principes, bon, bah, vous prenez ce qui vous plaît, et vous laissez ce qui est moins ragoûtant, je ne sais pas. Alors, comment considérer maintenant l'articulation entre le sacerdoce commun des fidèles baptisés et le sacerdoce ordonné? Je vais vous lire un extrait d'une homélie du curé d'Ars. Vous allez voir ça sur le rôle du prêtre. Donc, c'est a fortiori le rôle de l'évêque et pour une part le rôle du diacre. Qu'est-ce que le prêtre, dit le Saint-Curé? Un homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Alors il faut faire la part des choses, c'est évidemment outré son propos, parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs de Dieu, comme ça se saurait, quoi. Bon. En ce qui me concerne, je ne suis pas mon frère, mais moi c'est sûr que non. Si nous n'avions pas de prêtre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qu'il a mis là dans le tabernacle? Alors il parle aux runes. Qui est-ce qu'il a mis là dans le tabernacle? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage sur terre? Donc, le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme dans le sang de Jésus? Le prêtre. Toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir en péchant, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Par l'absolution. Encore le prêtre. Allez-vous vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange? Vous absoudront-ils? Non. Vous donneront-ils le corps et le sang du Seigneur? Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Ça, c'est quand même stupéfiant. Que la plus belle des créatures, que la Reine des anges, n'ait pas reçu en héritage le pouvoir qu'elle aurait amplement mérité. Enfin, comme si on pouvait mériter ce pouvoir, mais bon, en tout cas plus que nous, les prêtres, de dire les paroles consécratoires, quoi. Vous auriez 200 anges, là, c'est aussi stupéfiant. Vous auriez 200 anges, on n'a pas 200 anges, on a des myriades de myriades d'anges, qu'ils ne pourraient pas vous absoudre. Alors qu'un pauvre Pékin qui vous parle là est capable de faire ça. Un prêtre le peut. Il peut vous dire « Allez en paix, je vous pardonne ». Le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Ah ben, ok, j'avais pas lu ça. C'est une indication précieuse. Si on le comprend... des adieux au ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait, non de frayeur mais d'amour. Ça, vous connaissez ça. Si on savait, si le prêtre savait ce qu'il est, il mourrait d'amour. Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Philippe Néri disait la même chose. Celui-ci est l'ami de... Mais on sait que Jonas pompait quand même, il le disait lui-même. Celui-ci est l'ami de Dieu, donc l'ange. Mais le prêtre, lui, tient sa place. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Bon, alors, on est... je suis pas en train de faire de la table pour ma boutique, hein, vous avez bien compris. Parce que noblesse oblige, hein, là, bon, ok. Et quand on sait l'humilité viscérale du curé d'Ars, on imagine bien que s'il s'est permis de dire ces choses-là sur le prêtre, c'est pas du tout par mégalomanie. Hein. C'est pas du tout le genre de la maison. Donc c'est pas un prétentieux clérical, machin, mais simplement c'est quelqu'un qui, comme tous les saints, est plus sensible à la beauté des mystères. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, le même curé d'Ars avait coutume de dire à ses paroissiens, le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il n'est pas pour lui, il est pour vous. Voilà. Et bien plus tôt dans l'histoire de l'Église, je suis sûr que vous connaissez, sinon la formule exacte, au moins l'esprit dans lequel elle a émané de la bouche de saint Augustin, ceci, pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Mais ce qu'on connaît moins, ce que je ne connaissais pas avant de préparer ça tout à l'heure, pour vous dire, c'est la suite. Donc pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Aucune condescendance donc du tout, c'est vraiment un service. Mais il poursuit, ce que je suis pour vous m'épouvante. L'épiscopat. Ce que je suis avec vous me rassure. Bien vu. Hein. Évêque est le titre d'une charge qu'on assume, titre périlleux. Chrétien est le nom de la grâce qu'on reçoit, nom salutaire. Saint Augustin est son sens de la formule. Quand même. Enfin, je vous rends mal, hein, sans doute, mais voilà. Il paraît qu'en latin, c'est encore plus beau. Je laisse. Vous allez aux latinistes distingués. De goûter, c'est mal. Ce que je suis pour vous m'épouvant, ce que je suis avec vous me rassure. Bon. Et comme Jésus l'a clairement enseigné à ses apôtres le jeudi saint, après les avoir institués prêtres, chose que vous connaissez parfaitement, le sacerdoce, et a fortiori l'épiscopat auquel il venait de les élever, est un service. Juste après vient le lavement des pieds. Voilà. Six mois qui suis maître et seigneur, et tout travail. Enfin, le saint travail. Voilà. Et le principal service que peuvent rendre les évêques et les prêtres, et à leur place les diacres aux baptisés, eh bien, c'est de leur permettre de déployer le fameux sacerdoce commun des fidèles, ou le sacerdoce royal des baptisés, dont eux-mêmes sont unis. Voilà. Alors, donc, vous voyez, j'y reviens peut-être un peu trop souvent là-dessus, parce que c'est pénible, c'est très affligeant, c'est attristant en fait, de voir cette espèce de guéguerre qu'il y a entre les... Voilà, il faudrait pouvoir, pour que le baptisé sente mieux, certains voudraient qu'on amoindrisse le sacerdoce ordonné, c'est complètement crétin. En fait, il y a une articulation entre les deux qui est vitale, et comme l'a dit très bien curé d'Ars. Pour qu'il y ait Jésus sur l'autel, pour que le pardon soit prodigué de manière audible. C'est ça qui est intéressant. Je te pardonne. Il faut qu'il y ait les prêtres. Voilà. Et de même, le prêtre, le diacre, l'évêque ne servent à rien s'ils ne sont pas là pour se donner et se donner encore aux fidèles. Je ne comprends pas très bien. Et s'il y a, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, des âmes, suffisamment âmes pour prendre qui portent les reliques, les sacrements et la vérité, enfin, l'enseignement catéchétique, ils sont capables de s'enamourer d'eux-mêmes ou de croire que ça vient de leur propre vertu parce qu'on les applaudit. Bon. Ah, cela dit, méfie-toi de l'eau qui dort, je suis d'accord, mais on peut tous sombrer dans cet orgueil-là. Mais bon. Il y a un très bel article que je mettrai en ligne parce que je vais le tronquer parce que sinon je vais me faire engueuler. Parce que je ne pense pas qu'il soit libre de droit, mais bon. Ou alors je vais demander à l'auteur, mais je le connais, je pense que je ne le ferai pas. C'est un dominicain qui s'appelle le père Benoît Dominique de la Soujolle, qui est dominicain de la province de Toulouse, qui a été avant d'être religieux, il était magistrat, il était juge pour enfants. Voilà. Et puis ensuite, il est devenu théologien, et sa spécialité, c'est l'ecclésiologie, la théologie de l'Église. Et il identifie deux postures, je trouve, les choses bien exprimées, deux postures quant à cette considération des deux sacerdoces, du sacerdoce ordonné, ministériel, et du sacerdoce commun des baptisés. Deux postures typiques, soit l'équilibre, soit l'harmonie. L'équilibre, l'harmonie, je précise de quoi il s'agit. L'équilibre, en fait, pas de bol, j'avais lu Gustave Thibon peu de temps avant, et donc c'est Gustave Thibon qui a formalisé ça. Il ne parle pas des sacerdoces, mais il y a un bouquin de Gustave Thibon. Je ne sais pas si vous. Non ? Vous lisez un peu Gustave Thibon ou pas ?
On a lu.
Il y a des choses magnifiques. Et il y a un bouquin qui s'appelle L'équilibre et l'harmonie, justement. Et où il explique très bien, Thibon, et le père de la Soujolle à sa suite, que. Il ne s'agirait pas de trouver un équilibre, en fait, entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ordonné. Ce qui est, avouons-le, un peu la tendance. On essaye de négocier un équilibre. Mais l'équilibre, il le dit très bien, ça se dit de deux forces physiques en tension. L'équilibre. Du funambule, avec son truc, comme ça. Voilà. Donc les deux forces en tension, ce serait le sacerdoce ministériel d'un côté et le sacerdoce commun, qui se comprennent un peu comme deux réalités qui ont un peu de mal à coexister, vous voyez, qui ne trouvent pas leur articulation avec une certaine compétition. D'un côté, le cléricalisme, de l'autre, pour comment on appelait, le laïcisme, le démocratisme, etc. Et c'est dommage parce que les deux en pâtissent et personne ne trouve son équilibre. Et en revanche, ce qu'il faut trouver, c'est l'harmonie, quoi. Qui n'est pas une tension, mais qui est une complémentarité. C'est tout bête hein, comme propos, mais je trouve ça très, très, très judicieux. Deux réalités qui assument leurs différences d'essence et de degré. C'est pas le sacerdoce ordonné n'est pas... Et le magistère y est revenu à plusieurs reprises. Et dans les derniers documents, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, sans avoir rien promulgué explicite là-dessus, abonde. C'est une différence de degré. Et alors, en fait, puisque c'est le ministère oblige, c'est pas. Voilà. Et donc, pour arriver au Christ total, plutôt à. Au même équilibre qui existe dans la tête de l'Église qu'est le Christ, il faut qu'on arrive à l'harmonie. Je ne vais pas plus avant parce que il est quand même.
Ah oui, déjà.
23h40. Non, il est là dehors.
Vous ne parlez pas des cardinaux.
Alors, les cardinaux, ce sont des. Ce n'est pas un degré du sacrement de l'ordre. Les cardinaux, c'est une dignité à laquelle on est élevé discrétionnairement à la volonté du pape, pour constituer ce qu'on appelait autrefois le Sénat du Pape. Historiquement, les cardinaux sont les curés des paroisses de Rome, du diocèse de Rome, qui est évidemment précautionneusement choisi par les papes, voilà, et qui ont eu les attributions qu'on leur sait maintenant, donc la principale d'entre elles étant l'élection du successeur du pape défunt, ou enfin du pape encore en vie, pour ce qui concerne l'actualité récente, mais qui se serait retiré. Ils ont aussi un rôle de conseil, évidemment, ils ont aussi un rôle de protocolaire, un rôle de représentation. On a beaucoup de cardinaux qui sont soit qui sont des archevêques métropolitains de grandes métropoles. Alors là, François est en train un peu de rebattre les cartes, parce que, bon, j'aime bien les Corses, hein, attention. Mais là, c'est l'évêque d'Ajaccio qui est cardinal, avant même l'archevêque de Paris, ou l'archevêque de Lyon, quoi. Le primat des Gaules est... une dignité moindre que... Mais au plan de l'épiscopat, ils ont le même rang. Voilà. Donc c'est aussi des personnes qui ont une, une autorité particulière lorsque ils ont un train de vie particulier, il faut le dire aussi souvent, mais bon, bref. Mais ils sont envoyés parfois comme légats pontificaux, par exemple. Quand il faut résoudre un problème dans une partie de l'Église, eh bien, il est fréquent que le pape envoie comme légat un cardinal, parce que ça en impose, et aux églises locales, et aux interlocuteurs, j'allais dire civils, mais enfin, vous comprenez, Pardon ?
En Ukraine, il a envoyé un légat.
Oui, c'est ça. Ouais. Il peut envoyer un évêque, un simple évêque. Il peut envoyer qui il veut comme légat. Mais comme le légat est... le légat est... On rend au légat lorsqu'il est envoyé, mais je crois l'avoir déjà dit, mais on rend au légat lorsqu'il est envoyé quelque part les honneurs que l'on rend en principe au pape. Ça veut dire qu'il est vraiment le pape pour un temps. Alors le gars, faut pas qu'il s'enflamme. Hein. Il est totalement lié par sa légation. Et bien c'est le légat je vais terminer là-dessus, hein, mais c'est le légat, le fameux bourrin, je crois que c'est un allemand, mais c'est pas parce que c'est un allemand que je dis ça, envoyé par le pape, lequel je ne sais plus, au 11e siècle, à Constantinople, le pape, ça devait être Léon IX, je crois, qui était alsacien, hein, aujourd'hui, enfin bon, toute la zone germanique de l'Europe, et qui avait envoyé comme légat, je ne sais plus qui, avec une bulle d'excommunication dans la poche, enfin je l'ai fait un peu caricatural, mais à Constantinople, pour obtenir que le patriarche de Constantinople accepte l'introduction du filioque dans le symbole. Vous savez, ce procède du père et du fils. Et le gars est arrivé, vraisemblablement, il a dégainé un petit peu vite. Le légat, je ne sais pas si c'est passé, mais en tout cas, il a balancé la bulle avant même de discuter. Hein. On dit en pleine liturgie. Bon, c'est l'histoire qui. L'histoire vue de Constantinople, qui. Voilà, c'est ça. Il n'a même pas attendu qu'il ait fini, c'est vrai, la divine liturgie, comprenez, genre, voilà. Évidemment, l'état venu, ce qui va venir. Direct, paf, une baffe en sens inverse, en direction du pape. Et de là date l'excommunication du duel, Rome Constantinople, qui a été levée par Athénagoras et Paul VI. Bon, je voulais vous dire des trucs. C'est dommage, parce que les choses truculentes et polémiques ont été. Je vais vous les mettre, hein, en plus, sur le pourquoi des hommes seulement, la haute convenance du célibat, voilà, pour les prêtres et les évêques, du moins. C'est quand même d'actualité, hein, pareil. Donc, voilà. Et bon, comme il est 22h17.
La polémique, c'est tranché.
Le célibat, c'est pas encore tranché, mais enfin, pas définitivement. En revanche, oui, l'accès des hommes seuls aux ordres. Au sacerdoce et à l'épiscopat, Jean-Paul II. 94, c'est le seul acte infaillible ex-cathédrale de Jean-Paul II. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je suis navré de ne pas avoir pu traiter l'évocation des malades et le sacrement de mariage, qui est quand même le plus beau, n'est-ce pas, hein? Ah oui. On va finir juste par une prière, si vous voulez. Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.